franceinter.fr.
Aujourd'hui, en partenariat avec le journal Libération, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire de Monsieur Dassault, Serge, de son prénom, fils de Marcel, ou l'histoire d'un milliardaire dans la ville. Ce récit pourrait commencer comme un conte. Il était une fois un homme qui avait tout, mais qui en voulait plus. Face à face improbable, entre deux mondes que rien ne devait associer un jour. D'un côté, l'un des hommes les plus puissants du pays, héritier et milliardaire, Serge Dassault est à la tête d'un vaste empire industriel et médiatique. Les présidents et gouvernements se succèdent, mais lui est toujours là. En face, il y a une ville, oh, pas la plus grande des villes, pas la plus jolie non plus, non. Juste une ville moyenne et populaire du sud de la banlieue parisienne, c'est Corbeil-Essonne. Entre les deux, une union s'est scellée depuis bientôt 30 ans. Mais en 2009, les habitants de la ville accusent l'ancien maire de les avoir payés pour récolter des voix. Côté Dassault, on dénonce, je cite, des témoignages de voyous et l'absence de preuves sérieuses. À l'heure actuelle, Serge Dassault est présumé innocent. Mais pourquoi cette mise en accusation? En revanche, il vient d'être condamné à 2 millions d'euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour blanchiment de fraude fiscale. On parle de dizaines de millions d'euros cachés à l'étranger pendant 15 ans. Une affaire jugée, une affaire en cours, de Dassault Système au système Dassault, c'est l'une des illustrations de ce qu'on appelle en politique le clientélisme, ou en l'occurrence, puisque l'affaire n'est pas jugée, un clientélisme présumé. Ces questions, nous essaierons d'y répondre en seconde partie d'émission avec Renaud Lecadre, journaliste à Libération, notre partenaire tous les 15 jours. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Sacha Tropp.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Voilà une semaine qu'a été levée l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Il est depuis ce matin en garde à vue à Nanterre. Le sénateur UMP et industriel, âgé de 88 ans, est soupçonné d'avoir monté un système d'achat de voix pour les municipales de Corbeil-Essonne, dont il fut le maire de 99 à 2005. La garde à vue peut durer 48 heures et donc se prolonger jusqu'à vendredi matin.
Le 19 février 2014, Nanterre, 10h. Accompagné de son avocat, Serge Dassault entre dans les locaux de la police judiciaire. Il a face à lui les responsables de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Il est soupçonné dans une affaire de corruption électorale à Corbeil-Essonne. Depuis plusieurs mois, les policiers enquêtent et ils ont découvert plusieurs éléments qui rejoignent les témoignages des habitants de la commune. Le 25 juin 2013, lors d'une perquisition au bureau de Serge Dassault à la mairie de Corbeil, il retrouve un DVD sur lequel des jeunes d'un quartier sensible de la ville réclament de l'argent. Ils affirment avoir aidé le maire au cours d'une campagne électorale. Le lendemain, les enquêteurs trouvent dans une armoire de la résidence de Serge Dassault, les Pinsons, une série de listings qui mentionne 147 habitants de Corbeil. À la droite des noms, il y a deux colonnes, une intitulée « payé », l'autre « non payé ». Enfin, au cours de leur investigation, les autorités mettent le doigt sur d'obscurs circuits de financement du Liban au Liechtenstein en passant par le Maroc. L'enquête gagne alors les bancs de l'Assemblée. Au Sénat, après un premier vote contre, les élus lèvent finalement l'immunité parlementaire de leur collègue Serge Dassault. Une semaine après, il est placé en garde à vue et mis en examen. Ce 19 février 2014, plusieurs collaborateurs de l'ancien maire sont aussi interrogés. Tous nient en bloc. Dans son procès-verbal, Serge Dassault proclame son innocence et dit « Mon imprudence réside dans le fait que j'ai commencé à donner de l'argent pour des projets. J'ai mis le doigt dans un engrenage que je n'aurais jamais dû approcher. » Bien, mais quel est donc cet engrenage? Comment le milliardaire, sixième fortune de France, héritier du groupe fondé par son père, le grand industriel Marcel Dassault, à la tête d'un patrimoine estimé à 13,5 milliards d'euros, principal fournisseur de l'aviation française, actionnaire de Thalès, patron de presse, propriétaire du Figaro, à la tête d'un château bordelais, d'une agence de vente aux enchères ou encore d'une filiale immobilière, comment cet homme-là a-t-il pu se retrouver devant la justice pour une sombre histoire de corruption dans sa ville de Corbeil-Essonne? Remontons les fils de cette enquête qui nous plonge au cœur des spécificités de la politique à l'échelle locale où parfois des liens ténus et des intérêts troubles unissent des acteurs que tout devrait opposer. Tout commence peut-être ici, à Paris, le 21 avril 1986. Ce jour-là, 6 avions Mirage survolent le ciel de la capitale. Quelques mètres plus bas, dans la cour des Invalides, la France rend hommage à l'un de ses plus brillants capitaines d'industrie, Marcel Dassault. De droite comme de gauche, ils sont nombreux à être venus aux obsèques. Laurent Fabius, Jacques Chaban-Delmas entourent Jacques Chirac, le premier ministre de l'époque. Ce dernier prononce un éloge funèbre à celui qui l'aida quelques années auparavant à se lancer en politique.
La mort de Marcel Dassault, est-il besoin de le dire, fait mal à notre pays dont il fut l'un des plus grands et des plus prestigieux enfants. Dans tous ses discours, dans tous ses écrits, il nous rappelait que l'union des Français était la plus noble des ambitions et la grandeur de la France, le plus élevé des idéaux. Voilà, je crois, le testament que Marcel Dassault nous a laissé.
Jacques Chirac a raison de mettre l'accent sur le legs des valeurs, car pour la succession à la tête de son groupe, Marcel Dassault n'a désigné personne. À l'époque, son fils, Serge, est inconnu du grand public. Les Français ont plutôt vent du désamour de Marcel pour Serge. Ce dernier ne jouit pas d'une très bonne réputation. La voix nasillarde, le franc-parler pas forcément maîtrisé, et un côté un peu bonhomme ne joue pas en sa faveur. Pourtant, le fils maudit a tout fait pour s'inscrire dans les pas de son illustre père. Il est diplômé de Polytechnique, a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein du groupe et a fait preuve, chaque fois, d'excellents résultats. Bien. Seulement voilà, c'est le fils mal aimé. Et pour certains pontes, au sein du groupe, il doit y avoir des raisons à cela. Pour la confiance, on fait mieux. De son côté, l'État, actionnaire minoritaire du groupe, compte bien profiter de l'occasion pour reprendre la main. André Giraud, le ministre de la Défense de Jacques Chirac, tente d'y placer un homme de confiance. Mais contre toute attente, au conseil d'administration du 29 octobre 1986, c'est bien Serge Dassault qui est élu à la tête du groupe. Première victoire dans ce duel pour l'histoire que livrent à distance le fils et le père. Dans cette lutte, l'autre objectif de Marcel Dassault n'est pas industriel ou financier, non. Il est politique. Pour marcher sur les traces du paternel, député de l'Oise pendant plusieurs décennies, il décide de conquérir une circonscription. Dès 1976, Serge Dassault jette son dévolu sur Corbeil-Essonne. Là encore, il ne choisit pas la facilité, mais il veut faire ses preuves, loin de l'ombre de son père. La ville est un bastion rouge de la grande banlieue parisienne, administrée depuis 1959 par le communiste Roger Combrisson, homme respecté et charismatique. Alors, le milliardaire s'arme de patience. Il s'investit et n'hésite pas à utiliser sa fortune, comme en témoigne Thérèse Simoneau, conseillère municipale et soutien de Serge Dassault, interviewée par Daniel Carlin pour son film intitulé « Du côté de chez nous », réalisé en 1995.
Je suis chez vous, puisque je vous ai rencontré chez Serge Dassault.
Voilà.
Donc, si j'ai bien compris, vous êtes la plus fidèle supportrice, la première même.
Oui, depuis 1977.
Dès le début.
Dès le début. Donc, à partir de 78... J'ai fait l'action sociale de Serge Dassault, mais c'était au point de vue social, parce que Dassault, c'était un homme qu'il fallait connaître, qui était simple, malgré ses milliards, et qui était très généreux. Donc il voulait beaucoup s'occuper des personnes âgées, des logements ou des jeunes. Moi, j'ai vu donner combien de chèques. Vous aviez le social des gens qui étaient dans la misère, qui venaient lui demander de l'argent, il en donnait. Des notes d'électricité, des notes de loyer, des notes de tout ce que vous voulez.
Il payait.
Il payait. Les gens couraient après, disaient, bon ben... j'ai pas de pommes de terre à manger, j'ai pas de sucre, j'ai ceci et cela. Il a appelé son chauffeur, ou son garde du corps, sa serviette, et je l'ai vu combien de fois sortir un billet de 500 francs pour donner aux gens. Et je trouve que quand même, il s'est enrôlé dans Corbeil depuis 17 ans, 18 ans. Et pour lui, ben, je voudrais qu'il arrive quand même maire pendant qu'il peut encore.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que Serge Dassault, sous l'étiquette RPR, dénote à Corbeil. Politiquement, il se présente certes comme un fervent libéral, une position qu'il agrémente, toutefois, d'un peu de social. Il est notamment très attaché à l'intéressement des salariés au sein des entreprises, règles qu'il applique à l'ensemble des employés du groupe Dassault. À Corbeil-Essonne, il se retrouve dans une ville marquée par le recul de l'industrie. La commune est constituée de quartiers sensibles, comme la Nacelle, Montconseil, et surtout les Tarterets, cités typiques de l'architecture des grands ensembles des années 60, avec ses tours de 15 étages. Pour la bataille politique, les Tarterets sont essentiels, puisqu'ils concentrent près du quart de la population, à majorité d'origine étrangère, qui subit près de 30% de chômage au début des années 90. Trafic, incendies et affrontements avec la police rythment l'actualité du territoire. Mais après trois échecs successifs aux élections municipales de 1977, 1983 et 1989, Serge Dassault s'accroche. Il devient propriétaire du Clos des Pinsons, où il installe la fondation qui porte son nom en faveur des handicapés ainsi que sa permanence de campagne. Il continue à faire des allers-retours entre son bureau du rond-point des Champs-Élysées et la ville de banlieue. Sur place, il s'appuie sur un homme de confiance, Jacques Le Bigre. Ce commercial, ancien de l'OS, est depuis le début des années 80 le directeur de campagne de l'industriel. C'est lui, l'homme des tracts, l'homme du terrain. À l'approche de la prochaine échéance municipale en 1995, l'espoir est, disons, raisonnable pour Serge Dassault. Roger Combrisson, le communiste, a démissionné quelques années auparavant. La nouvelle candidate du PC, Marianne Lesage, ne peut pas faire le poids. Bref, la voie est libre. Le 18 juin 1995, au soir du second tour, les résultats tombent.
Marianne Lesage, 44,27%. Serge Dassault, 55%.
C'est une ville communiste, c'est une qui est mal gérée, c'est une ville triste. J'ai tellement d'amis que je voulais pour eux les libérer de cette ville et leur donner quand même de l'espoir d'une vie meilleure dans cette ville que j'aime parce qu'elle est sympathique. Il n'y a plus de polémique, c'est fini, on a gagné, on est heureux, on oublie tout.
Après 19 ans d'attente, Serge Dassault est enfin maire. Pour expliquer la victoire du milliardaire, on avance sa conquête de certains territoires, jusque-là rarement acquis à sa cause. Au Tarterets notamment, Serge Dassault y trouve un relais providentiel, un certain René Andrieux. L'homme de 42 ans, condamné pour braquage à main armée dans les années 70, est une figure importante du quartier. En 1994, il fonde une association, Tarterets 2000, qui vient en aide aux jeunes de la cité. Serge Dassault décide de soutenir financièrement et matériellement l'association. En échange, René Andrieux et les autres membres de l'association se mettent au service du candidat dans la campagne des municipales. Problème. Le 18 octobre 1995, quelques mois seulement après la victoire de Serge Dassault, René Andrieux est arrêté avec deux autres individus. Les policiers saisissent 4 kilos de cannabis. Mais Serge Dassault soutient René Andrieux.
Vous savez, dans une ville, un maire doit être bien tout le monde. Il ne va pas faire des catégories. Alors tous ceux qui viennent à moi, même ceux qui s'amendent en disant « bon, j'ai fait des bêtises et maintenant je vais réparer », je trouve ça tout à fait sympathique. Et puis rien n'a dit que M. Andrieux a fait quelque chose de répréhensible. C'est la justice qui va régler ça. On n'en sait rien.
Après la conquête, vient le temps de l'exercice du pouvoir. On retrouve chez le grand industriel les réflexes paternalistes du patronat du 19e siècle, Jean Schneider ou Vindel. La cité ouvrière de Dassault n'est pas en bordure des entreprises de son groupe, certes, mais à Corbeil-Essonne. Objectif prioritaire, lutter contre la délinquance et le chômage. Les deux vont de pair, et ça, le nouveau maire l'a bien compris. Il se tourne vers les jeunes du quartier des Tarterets. C'est le début de la politique dite des grands frères. Le but est simple, acheter la paix sociale. Le maire soutient les jeunes qui ont du pouvoir au sein des quartiers. En échange, ces derniers lui garantissent l'apaisement des tensions. Un exemple en particulier illustre ce projet. Il s'appelle Younes Bounaoura. Ce jeune homme est connu et respecté dans le quartier des Tarterets. Peu de temps après son élection, Serge Dassault essuie des jets de pierre lors d'une visite dans la cité. Younes Bounaoura lui vient en aide. Dans la foulée, le jeune homme obtient un poste d'éducateur à la mairie. Et puis une relation amicale s'installe entre Younes et le milliardaire. Et petit à petit, un système s'enracine. Les grands frères comprennent vite le fonctionnement. Pour obtenir des vacances organisées par la mairie, par exemple, on brûle quelques voitures avant l'été. Jacques Le Bigre, le directeur de cabinet du maire, gagne un surnom d'ailleurs, le porteur de valises. Sauf que l'attention portée au quartier des Tarterets fait des jaloux dans les autres cités. Les jeunes de Montconseil, par exemple, ont vent de ces pratiques et commencent eux aussi à revendiquer des soutiens de la mairie. Pour Serge Dassault, il s'agit uniquement de tendre la main à ces jeunes, comme il l'explique en 2000 sur le plateau de France 2.
Le problème, c'est qu'il faut encadrer ces jeunes. Il faut leur montrer qu'on s'intéresse à eux. Si on les laisse dans leur coin sans s'intéresser à eux, ils vont continuer. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressé à eux. J'étais moi-même. J'ai tendu la main, quiconque aux délinquants, pas qu'à eux, évidemment, pour essayer de les ramener dans le droit chemin. Et petit à petit, j'ai réussi à sortir 1, 2, 3, 4, 5 de vrais délinquants qui volaient des voitures, qui faisaient aussi des imbécilités. Et maintenant, ce sont des gens très bien. Il faut jamais refuser de tendre la main. On ne naît pas délinquant. On devient délinquant à cause de certaines circonstances. Donc on peut sortir les gens de cette situation. Et grâce à ça, la délinquance générale, au Tartare, Corbeil a baissé.
Au-delà de cette gestion singulière à l'égard des jeunes, Serge Dassault mène aussi une vaste politique de réaménagement urbain. Il passe outre la consultation des habitants et engage la destruction de 2 tours des Tarterets et la rénovation de 6 autres. Il soutient la construction de la mosquée, une politique qui d'ailleurs obtient des résultats. 5 ans après son arrivée à la mairie, la délinquance chute de presque 20%. Serge Dassault est réélu le 11 mars 2001, dès le premier tour, avec 51,6% des voix. Au cours de ce second mandat, il continue son action de rénovation urbaine. La ville change au rythme des chantiers du maire bâtisseur. Les tours sont détruites, remplacées par des résidences mieux calibrées, des écoles et des gymnases sont construits. En revanche, le système des enveloppes continue et les tensions sont vives. C'est que beaucoup d'argent circule dans Corbeil. Et on commence à parler de raquettes. À mesure que le temps passe, les menaces sont de plus en plus directes. Le 18 septembre 2007, Jacques Le Bigre, le bras droit de Dassault, celui qu'on surnomme le porteur de valise, est passé à tabac à la sortie de chez lui. À la mairie, on s'en rend compte, la situation devient délicate, voire ingérable. L'engrenage est enclenché et l'étau se resserre autour de ce que les habitants appellent maintenant le système Dassault. Janvier 2008, Corbeil-Essonne. À l'approche des élections municipales, la gauche s'est remobilisée. Depuis les précédentes élections de 2011, elle a trouvé un nouveau chef de file, Bruno Perriou. Pour lutter contre Serge Dassault, le candidat communiste monte une association baptisée la Ville Ensemble, en un seul mot. Elle réunit des militants politiques, mais aussi des acteurs de la société civile. L'objectif est d'agir au plus près des quartiers pour les reconquérir. De son côté, âgé de 83 ans, Serge Dassault décide de repartir en campagne. Mais cette fois, la victoire facile, comme en 2001, est loin d'être acquise. La ville de Corbeil-Essonne présente cet étonnant constat. Aux élections nationales, la gauche est largement gagnante, mais à l'élection municipale, c'est Serge Dassault qui l'emporte. En pleine campagne municipale, Bruno Pirioux décide de s'attaquer frontalement aux méthodes de Serge Dassault. Il critique d'abord la gestion municipale, et pour cause. La ville est largement endettée suite aux nombreux investissements du maire UMP. L'autre angle d'attaque de l'opposition, c'est celui bien sûr des pratiques de Serge Dassault. Bruno Pirioux n'hésite pas à convoquer la presse pour dénoncer le clientélisme en vigueur, comme lors de ce reportage où, entre les lignes, Serge Dassault reconnaît qu'il distribue de l'argent.
Bah, les enveloppes, vous en avez des enveloppes quand même. Bon. Vous l'avez dit au conseil municipal que vous étiez généreux.
Les gens
qu'en ont besoin. Et bon. Et comment vous les aidez? Vous les aidez avec quoi?
Et sur le plan humain, pas pour avoir de l'argent.
Oui, mais vous leur donnez de l'argent, c'est ça?
Très peu.
Moi, je pense que le maire de Corbeil-Essonne, depuis quelques années, a mis en place à Corbeil-Essonne une pratique clientéliste vis-à-vis de certaines entreprises pour tenter d'acheter la paix sociale dans cette ville.
Et c'est dans un climat délétère que la campagne se déroule. Pascal Bascarellio, reporter de France Inter, est violemment prise à partie lors d'une réunion organisée par Serge Dassault. Elle a eu l'outrecuidance de poser une question sur les dons du maire. Sur le terrain, ce dernier remobilise ses troupes, mais toutes ses attaques ne l'effraient pas. Il a le droit de disposer de son argent personnel comme il l'entend. Il aide juste les jeunes, en aucun cas, on l'a entendu tout à l'heure, il n'achète leur voix. Une association est créée, En Marche pour Corbeil-Essonne, dont le vice-trésorier n'est autre que Younes Bounouara, principal soutien de Serge Dassault dans le quartier des Tarterets. D'ailleurs, au fil du temps, ce dernier prend du galon. Il incarne à merveille le parcours des grands frères, ces premiers soutiens de Serge Dassault dans les quartiers sensibles, qui au fur et à mesure prennent du pouvoir. Ils ne sont plus employés municipaux. Pour la plupart, ils ont monté leur société, bien aidés par le parrainage de Sergio, comme certains l'appellent. Chacun a son équipe et le jour du scrutin, on voit des jeunes des cités près des bureaux de vote venus soutenir la candidature du maire sortant. Finalement, le 16 mars 2008, au soir du deuxième tour, les résultats donnent ceci.
22h15 hier soir, à l'hôtel de ville de Corbeil. Les partisans de SD, comme on l'appelle ici, laissent s'éclater leur joie. Le richissime avionneur, soutenu par l'UMP, repart pour un troisième mandat.
Moi, personnellement, c'est grâce à lui que je vais faire mon association, pour aider les jeunes de quartier, justement, leur faire un éveil culturel, l'aide aux devoirs, et voilà, faire un séjour pour leur faire montrer la France.
À quelques mètres de là, en contrebas, place de l'hôtel de ville, l'ambiance est tout autre. Bruno Pirioux et ses partisans sont amers. Ils ne comprennent pas comment Serge Dassault a pu l'emporter alors que la gauche était majoritaire au premier tour.
Incontestablement, les résultats des quartiers populaires de Corbeil-Essonne ne reflètent pas l'état réel des forces. Les démocrates, malgré tout, puisqu'on perd à 168 voix, sortent renforcés de cette campagne électorale. Eh bien, nous allons continuer.
Déçu mais pas abattu, Bruno Pirioux envisage aujourd'hui de déposer un recours en annulation. Il estime que son adversaire n'a pas respecté la loi.
C'est honteux, vraiment honteux. Ils ont perdu parce qu'ils étaient moins bons que nous, c'est tout. Et que les gens nous ont cru plus. Pensez que 13 000 voix, comme vous voulez que j'achète 13 000 voix, c'est ridicule. 6 000 voix, c'est stupide.
Serge Dassault savoure sa victoire et il se montre généreux. Quelques mois après sa réélection, Gérard Lima, le comptable suisse de l'industriel, effectue 3 virements à des habitants de Corbeil depuis un compte au Luxembourg. Younes Bounouara reçoit la modique somme de 600 000 euros sur un compte en Algérie qui appartient à son beau-père. L'ordre de virement indique le financement d'un projet humanitaire dans un village de Kabylie. L'opposition, elle, a la défaite amère. 168 voix, ça paraît bien peu. Le candidat Bruno Pirioux décide de mener son enquête. Il se rapproche alors de certains habitants des Tarterets. 2 en particulier, Fatahou et Larbi Marzoumi. Le premier est à la tête d'une société de transport, le second propriétaire d'une boulangerie. Les deux hommes racontent à Bruno Pirioux le système présumé des achats de votes. Les équipes formées, en fonction des quartiers, sont en charge de récolter les voix. Ils mettent en cause les grands frères qui contrôlent les opérations. Ils citent notamment Younes Bounouara, le soutien historique de Serge Dassault. Ils sont d'accord pour témoigner officiellement. Après avoir fait machine arrière, ils apportent finalement leur témoignage à Bruno Piriou qui s'empresse de les remettre au Conseil d'État. Le 8 juin 2009, un an après les élections, l'instance annule le scrutin de 2008 et tous les regards se tournent vers le quartier des Tarterets.
Dans la cité des Tarterets, personne n'a oublié les élections municipales. Ce quartier populaire de Corbeil-Essonnes est traditionnellement un bastion de l'extrême gauche. Mais en mars 2008, au lieu des 70% habituels dans ce bureau, le Parti communiste fait moins de 50% au deuxième tour des élections. Des voix qui se reportent sur le futur maire Serge Dassault. Dès lors, la rumeur court.
Ça disait « Ouais, Dassault a donné quelques petites enveloppes aux jeunes et tout, quand il avait voté pour lui et tout. »
C'est que j'ai vu une personne que je connais qui a une voiture. Il y en a, ils ont eu des enveloppes. C'est une personne qui est partie voir, qui lui a dit « Voilà, votez pour moi et si tu veux, je t'offre une voiture. »
De son côté, Serge Dassault continuait de nier ses accusations il y a quelques jours, alors qu'il était encore maire.
Je suis sidéré. Je ne comprends pas que le Conseil d'État puisse me condamner sans preuve, sur simple supposition. Cela n'existe pas.
Vous contestez tous ces témoignages?
Il n'y en a pas de témoignages. Ils ont été contestés eux-mêmes, il n'y en a pas.
Eh oui, Serge Dassault a raison. Des témoignages, il n'y en a pas. Du moins, il n'y en a plus. Car au dernier moment, des témoins se rétractent. Ils expliquent qu'ils ont menti dans leur déposition, qu'ils voulaient faire plaisir à Bruno Piriou. Aux policiers qui enquêtent sur ces curieux revirements, certains affirment qu'ils ont subi des menaces physiques et verbales, sans nommer leur agresseur. Serge Dassault est donc inéligible pour un an. Bruno Piriou aussi. Il se trouve que le candidat communiste n'a pas déclaré la location d'une salle dans ses comptes de campagne. Les deux principaux leaders politiques de Corbeil-Essonnes sont donc interdits de se présenter. S'ouvre alors une période d'instabilité chronique dans la ville. De nouvelles élections sont organisées en octobre 2009. Serge Dassault choisit un homme lige. Il demande à Jean-Pierre Bechter de mener sa liste. L'homme est salarié du groupe Dassault, directeur du journal Le Républicain de l'Essonne. Le remplacement au pied levé est à peine voilé. Les slogans d'ailleurs sont simples, voter Bechter, c'est voter Dassault. Le soir des résultats du second tour, le 4 octobre 2009, c'est bien la victoire de Serge Dassault et non celle de Jean-Pierre Bechter qui est célébrée. Une fois encore, du côté de Bruno Piriou et de son remplaçant Michel Nouaille, la défaite est dure à encaisser.
On vote pour celui à qui on a confiance. Bon, ils m'ont fait confiance un peu plus qu'à l'autre, bah, tant pis, c'est comme ça. Mais ça prouve quand même que les gens sont reconnaissants de ce que j'ai fait pour eux.
Inéligible pendant un an, le milliardaire n'aura pas l'écharpe de maire, mais gardera les commandes de la ville.
Je tiens à le dire, je le réinstallerai dans son bureau de maire, je prendrai un bureau à côté, point à la ligne.
Les élections se sont déroulées tout à fait normalement.
Et quand le représentant du préfet proclame les résultats, la tension monte dans la mairie.
Qu'est-ce qui a fonctionné lors de ce second tour? Le système Serge Dassault.
Et le candidat communiste d'appeler les habitants à signaler toutes les irrégularités qu'ils auraient pu observer.
C'est difficile de combattre un système qui distribue des 1000, des 2000, des 3000, des 4000 euros quand nous avons à opposer des idées, des valeurs et un projet.
Face au faible écart de voix, la liste de gauche envisagerait un recours devant le Conseil d'État. Le feuilleton Corbeil-Essonnes n'est peut-être pas terminé.
Le candidat de Dassault est donc élu avec un écart de 27 voix seulement. Problème, dans la précipitation, la droite a commis une erreur. Sur les bulletins de vote, Jean-Pierre Bechter est présenté comme secrétaire général de la fondation Serge Dassault. Les candidats de l'opposition ne laissent pas passer et déposent une réclamation. Le 22 septembre 2010, le Conseil d'État rejoint leur avis et estime que la référence au milliardaire est à même, je cite, « de semer le doute dans l'esprit de certains électeurs ». L'élection est donc de nouveau annulée. C'est la deuxième fois en un an. La situation à Corbeil-Essonnes vire au burlesque. Pour ce nouveau scrutin, Bruno Piriou reprend la tête de liste d'opposition à gauche qui réunit cette fois les communistes et les socialistes. De son côté, après avoir hésité un temps à se présenter, Serge Dassault maintient Jean-Pierre Bechter comme candidat. Et ce dernier est élu le 12 décembre 2010 avec 53% des suffrages et 728 voix d'avance. Cette succession d'élections à Corbeil-Essonnes dégrade considérablement le climat dans la ville. Certains n'hésitent pas à parler de systèmes mafieux qui gangrènent la cité. Le retrait de Serge Dassault et l'inflation des dons au cœur des cités de la commune transforment Corbeil-Essonnes en une espèce de Chicago. Scène incroyable, le 29 mars 2010, une quarantaine de jeunes envahissent la mairie en plein conseil municipal. Dans la cohue, des cris surgissent « Dassault, tiens tes promesses !» anonyme dans la presse papier, à visage couvert à la télé ou la voix modifiée à la radio, les témoignages des petits caïds se succèdent pour dénoncer les errements du système d'assaut. La plupart du temps, la confusion règne autour de ces prises de parole. Les jeunes témoignent aussi pour menacer les autorités municipales, ils jouent au maître chanteur, et puis surtout, les risques sont grands pour ceux qui veulent révéler les dessous de la ville. En 2012, une vieille connaissance revient à Corbeil-Essonne. René Andrieux, le premier soutien de Serge Dassault, Tarteret. Des divergences avec Younes Bounouara avaient provoqué son départ de la commune. Arrivé en ville, il se rapproche de Fatahou, l'un des témoins de Bruno Piriou dans le cadre des élections annulées de 2008. Les deux hommes estiment, chacun à leur manière, avoir été lésés par le système d'assaut. Alors ensemble, ils obtiennent un rendez-vous. Le 10 novembre 2012, ils font face à Serge Dassault, à la mairie de Corbeil. Munis d'une caméra cachée, ils enregistrent leur conversation. Ils expliquent à Serge Dassault qu'ils n'ont pas été payés pour leur travail dans le cadre des élections municipales de 2010. Le grand patron est sur ses gardes. Tout juste évoque-t-il l'argent donné à Younes Bounouara et à la fin d'une filière de financement occulte au Liban. La vidéo est reprise par le Canard Enchaîné, puis diffusée par Mediapart un mois après. La réponse ne se fait pas attendre. Le 19 février 2013, dans le centre de Corbeil-Essonne, Younes Bounouara croise la route de Fatahou. Il sort une arme de calibre 38 et lui tire dessus. L'homme est grièvement blessé. Défiant, cela dit, tous les pronostics des médecins, il s'en sort. Quelques mois plus tard, au micro de France Inter, il continue de dénoncer les coulisses de la politique à Corbeil-Essonne.
À Corbeil, les meilleurs amis ne se parlent plus au jour d'aujourd'hui. Pourquoi ? À cause de son argent. Dassault, pour passer, il est obligé de payer des groupes pour que ces groupes-là lui ramènent des voix et pour qu'ils se fassent élire. Et il y a des fois, les jeunes ne sont pas payés. Il y a, on va dire, un Younes Bounouara qui vient, qui prend des groupes, qui dit « Ouais, toi tu fais ce secteur-là, toi tu fais ce secteur-là, t'inquiète pas, on va manger. » Mais en fait, il n'y a que lui qui a mangé dans l'histoire. Dassault, je ne vais pas dire que c'est une personne mauvaise. Il est gentil, mais les gens ont abusé de sa gentillesse. Et dû à sa gentillesse, ça a foutu la merde à Campbell.
Depuis le début des années 2000, d'autres cas d'agression similaires ont eu lieu. La plongée dans les arcanes de la politique locale témoigne du contexte trouble qui règne dans la ville de l'Essonne. Un contexte marqué par l'arrivée de l'argent et des dons de Serge Dassault. Même si l'ancien maire, comme il s'en défend, n'a pas donné pour acheter mais pour aider, le résultat est là, tragique en termes d'image et de pratique de la démocratie locale. Finalement, Serge Dassault est mis en examen en février 2014. Mais la prescription empêche toute poursuite pour les élections de 2008. Deux mois après, Jean-Pierre Bechter est réélu à la mairie de Corbeil-Essonne. Il entame son deuxième mandat. Le 5 avril 2014, Serge Dassault était là, à 89 ans, pour le premier conseil municipal. Autrement dit, quand le roi perd sa couronne, il lui reste toujours son château.
do tomorrow? Is there someone with a dollar I could borrow? Who can help me take away my sorrow? Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le système d'assaut avec notre invité Renaud Lecadre. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes spécialiste pour le journal Libération, notre partenaire, des affaires politico-judiciaires, on va dire ça comme ça. Vous venez de l'économie, vous êtes au service police-justice, c'est ça?
On peut le résumer ainsi. Tout se mélange. La politique, l'économie, le judiciaire.
La preuve. Alors, redisons d'entrée de jeu que Serge Dassault est présumé innocent dans cette histoire, dans la mesure où l'affaire n'a pas été jugée. Ça s'appelle la présomption d'innocence et nous la respectons. Cependant, même s'il est jugé innocent, on peut pas nier qu'il a mis en place un système de distribution d'argent à Corbeil-Essonnes qui a gangréné la ville, vous confirmez?
Absolument. Alors, je dis, Serge Dassault ne dément pas les faits. Simplement,
oui, en plus.
On peut en conclure dans un premier stade, à défaut de juger, mm-hmm. on peut dire que Serge Dassault a un peu confondu le rôle de maire et de Père Noël. Distribuant ses prébendes. Non pas dans une optique d'achat de vote, c'est sa défense, et il a le droit de s'en, hein, mais arrosant de ses subsides et de sa générosité certains des électeurs de sa commune.
Il y a un côté politique à la papa, c'est le qu'on puisse dire d'ailleurs, parce qu'il est le fils de Serge Dassault. On reviendra peut-être sur l'influence du père sur le fils, réel ou supposé. En tout cas, ça date de la fin du 19e siècle, début du 20e, genre j'ai de l'argent, après tout je fais ce que je veux, si je décide de le donner aux pauvres, je le fais, on ne peut rien me reprocher. Enfin, moralement et politiquement, il est clair que cette méthode pose question.
Absolument. Déjà son père, Marcel Dassault, lui-même, avait été élu dans l'Oise. Oui. Et à l'époque, il y avait déjà quelques soupçons de distribution de prébendes, pour rester poli, et sans employer de termes judiciaires. C'est une méthode qui pose question. Pour être maire, on peut comprendre Serge Dassault, genre, je veux aider sincèrement les petits gars des cités. Mm-hmm. Et pour ça, il y a la voie naturelle, c'est la subvention publique, votée en conseil municipal. Pourquoi payer de sa poche? Ah, certes, à ce moment-là, si c'est du mécénat, il n'a pas besoin d'être maire pour encourager les jeunes des cités à créer des projets, à monter leur boîte. Donc voilà, c'est le mélange des gens qui fait débat.
Après, on se pose la question de la pugnacité, l'acharnement de Serge Dassault à vouloir être maire. Après tout, il a son empire fonctionne, il a de l'argent, des activités. J'imagine que c'est un homme qui ne s'ennuie pas. Pourquoi cette volonté d'être maire, en plus d'une ville qui n'est pas facile non plus, qui n'est pas simple?
Ah ouais, c'est la part de l'homme, Serge Dassault, qui est curieuse et intéressante à la fois. Mmh. Vous savez que quand il était enfin élu maire en 95, c'était la quatrième tentative. Ouais. Ensuite, il a été réélu en 2011, recandidat en 2008. Après annulation de son élection, et son bras droit continue à sa place en 2009-2011. Il continue, il persiste. Il y a un vrai engagement de sa part. Alors, qu'on oserait qualifier de citoyen, mais peut-être aussi un peu quand même citoyen. Tout milliardaire qu'il soit, tout plutocrate qu'il soit, milliardaire, habitué à acheter des services, voire à corrompre, parce qu'il a déjà été condamné pour ce genre de choses. Il y a un vrai mystère chez lui. En plus, Corbeil-Essonne, moi j'y suis allé, vous y êtes allé aussi, c'est pas la cité radieuse non plus. Pourquoi décider là ?
Ah, effectivement, c'est une question.
On peut comprendre. Au-delà du statut du maire, ça lui permet de devenir sénateur.
Oui.
Qu'il est toujours à ce jour.
Oui.
Avec l'immunité parlementaire qui va avec.
Alors, on l'a vu dans le récit, hein, l'une des choses les plus intéressantes, bah, c'est la méthode. Ce sont ces grands frères des cités qui ont une trajectoire singulière. Ils passent de petits caïds à patrons de société. Leurs rapports avec Serge Dassault sont effectivement très troubles. Bah, parlez-nous de ces jeunes gens, enfin, jeunes, plus ou moins jeunes, ces grands frères des cités.
Grand frère. Alors, moi, j'en ai rencontré quelques-uns. Ils ont, en général, ils avaient une trentaine d'années.
Oui, donc ils sont jeunes.
C'est pas ce qu'on appelle les petits loustiques. Les petits loustiques des cités, c'est les ados et post-ados. Quand on a 30 ans, on acquiert, c'est de fait, le statut de grand frère, qui est censé un peu épauler, vaguement remettre les jeunes, les petits jeunes droit chemin, ou les aider et rendre service.
Donc c'est un relais au-delà des méthodes habituelles qui consistent à mettre des maisons de la culture.
N'importe quel maire qui, dans sa commune, a des cités sensibles, a des relais sur place dans les cités.
Oui, mais là c'est un système. Hein? Normalement, il y a effectivement, comme vous dites, subvention publique, décision publique, retour de la municipalité ou de l'État. Mais
on peut créer des maisons de quartier.
Voilà, donc là, il passe par-dessus tout ça, en fait. Bon, alors on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je me tourne vers Annaëlle Verzeau. Bonjour,
Annaëlle.
Bonjour. Vous êtes notre reporter et vous êtes allée à Corbeil-Essonne. C'était fin juin 2015. Et alors, on peut dire que vous avez entendu des choses surprenantes sur le marché.
Oui, Fabrice, ce qui était assez incroyable, c'est que Serge Dassault était à ce moment-là, toujours considéré comme maître en son royaume, alors pourtant qu'il avait été mis en examen depuis déjà plus d'un an pour achat de vote, je rappelle, complicité de financement illicite de campagne électorale et financement de campagne électorale en dépassement du plafond autorisé.
Et donc en juin 2015, on connaissait déjà le fonctionnement du système Dassault, vous venez de le dire, notamment grâce au témoignage de l'ancien comptable de Serge Dassault lui-même. Alors on va partir avec vous dans cette ville étrange, et puis finalement un an, ça fait un an et demi, juin 2015, ouais c'est ça, c'est pas si vieux, en même temps c'est quand même un an et demi, rien n'a changé. La corruption a tellement gagné les esprits, elle est dans les têtes, qu'elle apparaît peut-être à Corbeil-Essonne comme un fait établi. On va écouter son partage.
Corbeil-Essonne, terminus du train. Avant de descendre, assurez-vous de n'avoir rien oublié.
La une du Parisien, Corbeil-Essonne, Lily deviendra-t-elle Super Mamie France ? On est très loin des affaires de Serge Dassault, hein, aujourd'hui. Je passe devant la mairie et sur la droite, c'est la rue des Remparts qui nous mène au marché. Aujourd'hui, mardi, c'est le jour du marché dans le centre-ville de Corbeil. J'arrive sur le marché. Et là, il y a un kebab, une brasserie, l'église s'inspire derrière. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Comment vous vous appelez monsieur ?
Monsieur Ahmed.
Elle a changé la ville ou pas ? Depuis que Serge Dassault a été mis en examen ?
Non, ça ne va pas changer. Si Dassault, toujours Dassault, hein. C'est lui le patron, hein. Patron de Corbeil. Hein.
Ah, il reste le patron aujourd'hui ?
Et que c'est lui le patron.
Il n'y a rien de changé.
Hein ? Il n'y a rien de changé ?
Il n'y a rien de changé. Il faut méfier toujours.
Mais vous êtes au courant que Serge Dassault et Jean-Pierre Bechter ont été mis en examen l'année dernière ?
Ah non, je ne savais pas. Je ne savais pas.
Vous ne suivez pas ces histoires-là ?
Au Portage, j'habite. Je n'ai pas entendu de ça. Au Portage, j'habite derrière Dassault. Dassault est là et moi, mon appartement à côté. Il est même immeuble.
Vous habitez juste à côté ?
Voilà, rue de Gourny.
Ah oui, tout près du château des Pinsons.
Voilà.
La résidence de Serge Dassault, ici
voilà.
À Corbeil.
Voilà.
Et vous le voyez, du coup, de temps en temps ?
Oui, bien sûr, je vois de temps en temps le matin qui se lève. Il est venu, ça, je le vois de temps en temps.
Bon courage.
Bien, merci.
Au revoir, monsieur. Au revoir.
Au revoir.
Toujours dans le centre-ville de Corbeil-Essonne. Et maintenant, on retrouve Bruno Piriou, qui est un militant communiste, opposant de très longue date à Serge Dassault. Ici, il s'est présenté plusieurs fois à la mairie de Corbeil-Essonne. Il vient d'écrire un livre sur Serge Dassault.
Ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre avec Ulysse Rabaté, L'argent maudit,
c'est quand on achète quelque chose, elle n'a plus de valeur. Serge Dassault, qui veut aujourd'hui nous mettre un Mirage 3, un rond-point, qui débaptise Jean Jaurès pour mettre son
la
nom,
rue Jean Jaurès,
pour mettre son nom à la place, il a incontestablement, pour une part, il s'est payé Corbeil-Essonnes. Et nous faisons l'expérience que quand on achète des individus, quand on achète une ville, elle perd son désir de grandir par elle-même. Corbeil-Essonnes, 47 000 habitants, devrait avoir des centaines de jeunes artistes, rappeurs, danseurs, une vie sportive attractive qui mobilise. Corbeil-Essonnes n'a pas grand-chose de tout ça, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Et je salue ceux qui passent du temps à bénévolement à faire vivre tout ça. Mais au regard d'une ville deuxième de l'Essonne, aussi importante, ils ont, en distribuant des dizaines de millions d'euros dans cette ville...
Alors, 53 millions d'euros en liquide, l'ancien comptable de Serge Dassault.
Voilà, c'est ce combat que nous avons mené a permis de découvrir des caisses noires un peu partout dans le monde qu'à Serge Dassault, non déclarées, d'ailleurs le fisc s'en mêle. Eh bien, Corbeil-Essonnes a été aseptisé.
Est-ce qu'on continue, d'après vous, Bruno Piriou, de distribuer de l'argent ?
Je ne suis pas sûr que ce soit complètement fini, mais il faut dire que Manuel Valls, ancien député de la circonscription, a parlé de climat mafieux à Corbeil-Essonnes. Je pointe du doigt quand même cette aberration qui fait que le président de la République actuelle, parce qu'on vend des rafales, fait la bise à celui qui serait responsable d'un système mafieux à Corbeil. Donc le combat contre la corruption, il faut continuer à le mener partout d'abord. On ne peut pas accepter ça. Il faut se mêler de politique nationale. Comment c'est possible qu'il y ait 200 familles qui ont de l'argent à pas quoi savoir en faire et qu'on nous explique qu'il faudrait partout en France réduire l'argent aux collectivités territoriales? On a des beaux exemples aujourd'hui en Europe, notamment, je pense, en Espagne, où des gens qui n'étaient pas des professionnels de la politique ont su mener des combats, se fédérer, se rassembler, converger. Et puis, ça donne les belles victoires électorales de Barcelone et de Madrid.
Merci beaucoup. Oh, mec qui passe à... Là, on est en plein centre de Montconseil, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais. Vous habitez là?
Ouais, j'habite sur le quartier. Ouais.
Là, dans les immeubles en face?
Ouais.
Avant, il y avait des tours ici?
Ouais, il y avait... Bah, ils ont tout rasé. Hein.
La tour 23. Toute ma vie, j'habite dans la tour 23, moi. Après, je sais pas, vous avez pas 30 000 euros à nous donner, non?
Ah non, j'ai pas, non. Moi non plus, il m'a rien donné d'assaut, donc...
Vous avez entendu, l'un des témoins, Renaud Lecadre, disait « le patron ». On dit pas le patron d'un maire, hein, il y a un côté... Parrain, effectivement, Manuel Valls avait évoqué l'existence d'un système mafieux. Donc c'est un patron. Ça vous a frappé, ça?
Vous savez que depuis l'annulation de son élection en 2008, Serge Dassault n'est plus maire de Corbeil.
Oui.
Il a un maire consort, Jean-Pierre Bechter,
c'est ça.
Son bras droit au sein même du groupe Dassault qui devient son bras droit à la mairie. Qui fait un peu le maire du palais à la place de Serge Dassault.
Voilà. Qui reste le patron, donc.
Absolument. La meilleure preuve, c'est qu'en 2009, quand Bechter est élu à la place de Dassault, à l'époque inéligible, la même élection de Bechter était annulée au motif qu'il se présentait comme secrétaire général du groupe Dassault.
Ouais.
Genre, je votais Dassault pour, à sa place.
Alors, par ailleurs, les enquêteurs mettent le doigt sur des circuits obscurs de financement. Alors, on parle du Liban, Liechtenstein, Maroc. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que sont ces circuits évoqués?
Alors, la famille Dassault dispose de comptes masqués en Suisse depuis les années 50.
Mmh.
C'est Marcel Dassault, à l'époque, qui avait créé ce compte en Suisse, en craignant une éventuelle résurgence du nazisme. Et de l'antisémitisme, pourquoi pas. Très bien. À l'époque, ils craignent un premier compte en Suisse garni d'une cinquantaine de millions de francs de l'époque. Cette petite caisse noire va continuer à vivre sa vie. Au décès de Marcel en 86, c'est sa veuve qui va hériter de cette caisse noire. Elle-même étant décédée en 91, finalement c'est Serge Dassault qui va en hériter. Alors lui, il va la transférer au Liechtenstein. Et on va faire un usage qui n'était pas un peu éloigné d'une éventuelle retour du nazisme. Il va l'utiliser non seulement pour distribuer des sous aux électeurs de Corbeil. On a des liens de cause à effet. On sait très bien quand même il n'y aurait pas fraude électorale, on sait que certains des fonds versés à des loustiques d'Atteret venaient de, de cette cagnotte.
D'accord.
Elle va aussi servir pour obtenir des contrats de marché d'armement. C'est l'affaire Augustin en Belgique, pour laquelle Serge Dassault a été condamné en 98 à 2 ans de prison avec sursis. À l'époque, il avait bénéficié du marché de rénovation de la flotte aérienne de l'armée belge, en arrosant au passage le PS flamand et le PS wallon. Bon, la parfaite unité belge. On sait très bien. Voilà, d'où vient l'argent. Et c'est un des mystères, voilà. C'est que, Serge Dassault a beaucoup utilisé cette cagnotte. C'est au final, en 2014, il ne restait plus que 10 millions d'euros. Alors qu'il y avait 4 fois plus 5 ans plus tôt.
Et donc il aurait utilisé cette cagnotte pour cette politique dite de clientélisme, on achète des voix.
Entre autres utilisations.
Sur la personnalité de Gérard Lima, le comptable suisse de Serge Dassault, l'homme qui était au plus près de ses financements, lui se met à parler. Qu'est-ce qu'il motive et qui est cet homme?
Alors c'est un comptable de profession, homme à tout faire, installé en Suisse. Alors il est entendu par la voie judiciaire, à la fois dans le volet achat de vote à Corbeil et dans le volet blanchiment de fraude fiscale. Son témoignage est très simple. Il disait, je me rendais à Vaduz, Liechtenstein, je récupère des espèces, je le rapatrie en Suisse, je le conservais à demande de Serge Dassault, et en cas de besoin, je les amenais à Paris pour les donner dans son bureau. C'est tout bête, c'est tout simple. Hein. Le blanchiment, c'est pas toujours très compliqué. Hein.
Mais là,
il y a beau avoir des mises offshore au Liban, au Liechtenstein, en Suisse. Quand il s'agit de rapatrier les fonds, ça se fait toujours à bonne franquette, en ramenant des espèces. Donc, Charles Limat a témoigné, j'ai amené des espèces au bureau parisien de Serge Dassault. En parfait majordome de comptabilité familiale.
Alors vous l'avez évoqué, donc il y a une autre affaire hein, qui recoupe celle pour laquelle il a été suspecté par la justice. Alors là, il a été condamné au début du mois, donc blanchiment de fraude fiscale, condamné à 2 millions d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Alors, il n'a pas eu de peine de prison, effectivement, pas eu de sursis non plus, parce que la justice a considéré que mettre un sursis pour une personne qui a 91 ans, je crois, aujourd'hui, c'était un peu absurde. C'est quoi ce blanchiment de fraude fiscale, précisément? Ça nous renvoie cet argent, j'imagine, hein, placé en Suisse et ailleurs, c'est ça?
Bon, à la base, il y a fraude fiscale.
Oui.
Cette fraude fiscale est avérée. La meilleure preuve, c'est que Serge Dassault, lui-même, était à la Canossa. Vous savez qu'à Bercy, il y a une cellule
de dégrisement.
Dégrisement.
Oui, c'est
où
ça.
Tous les gens.
J'ai fauté, je viens. Est-ce que vous pouvez me pardonner? En gros, c'est ça. Faute à moitié avouée, à moitié pardonnée.
Voilà. Absolument. À moitié, enfin, nonobstant.
Avouée et
nonobstant des pénalités de retard. Donc,
oui.
Bref, en l'été 2014, Serge Dassault s'est pointé à Bercy. Il a réglé, rubis sur l'ombre, 19 millions d'euros pour solder tout le passé.
Bien.
Voilà, normalement, il pourrait, donc, dans la mesure où il a eu cette première sanction dite administrative, de là, ça ne mérite pas forcément une double peine au plan pénal. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Sauf là, il poursuit pour blanchiment de fraude fiscale.
Alors, qu'est-ce que c'est le blanchiment de fraude fiscale?
Blanchiment, c'est l'usage des fonds. La fraude fiscale, c'est le fait de planquer du compte de l'argent à l'étranger. Le blanchiment, c'est le fait d'en user et de dissimuler pendant des années et des années.
Brouiller des pistes, quoi.
Excellent.
Est-ce que, par exemple, si l'argent qui a été donné, en fonction de ce qu'on vient de raconter dans le récit, vient d'une fraude fiscale, on est dans le blanchiment de fraude fiscale? Est-ce que les deux affaires, finalement, se recoupent et se superposent? C'est ça, en fait?
Oui, absolument.
Bien. Oui. C'est ce que je voulais savoir pour que ce soit précis.
Il en fait du temps pour en y arriver là, parce que souvenez-vous que dès 2009, Tracfin, vous savez, Tracfin, c'est l'organisme anti-blanchiment de Bercy.
Oui, absolument.
Qui a fait un premier signalement dès 2009, en suspectant quelques retraits d'espèces suspectes. Premier signalement en 2009, suivi d'un deuxième en 2010, d'un troisième en 2011. Rien. Il ne se passe rien. Et il faut attendre le quatrième signalement de Tracfin en mai 2012. La date n'est pas anodine. Donc, enfin, que la justice pénale se saisisse du sujet.
Dans le cadre d'une toute dernière question, je rappelle que Dassault est un marchand d'armes. Alors, il vend aussi des avions civils, les Falcons, mais enfin, aussi beaucoup les Rafales, les avions militaires, à la pointe de l'électronique, actionnaire de Thales. Pour l'essentiel, il travaille sur des marchés publics et il est propriétaire du Figaro. Alors, ça pose toujours un problème. Certains disent, mieux pour un journal, mieux vaut survivre dans les bras du CAC 40 que de mourir. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que journaliste? Juste 20 secondes. Même pas.
Chaque jour, les actionnaires qui peut, à Libération, nous, on a Patrick Dary, bon, je me
voilà.
Pense pas sur ce cas.
Bah.
Et sur Serge Dassault et l'État, c'est l'anecdote de François Hollande, au Salon du Bourget.
Oui.
Il monte dans un avion Rafale avec Dassault.
Oui.
Hein, Dassault a du mal, dans la génère, a du mal à monter l'échelle. François Hollande le pousse, le soutient et dit à la cantonade, comme d'habitude, l'État français soutient Dassault.
Voilà, ce sera le mot de la fin sur cette image. Merci beaucoup, Rode Le Cadre de Libération, notre partenaire. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le système d'assaut, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.